L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, avant de retrouver notre World Tour, notre French Tech Tour, avant de retrouver aussi la rédaction de Zeronet.com, comme chaque semaine, pour jeter un œil sur les gros titres d'actualité que vous avez pu lire sur Zeronet.com. Avant tout cela, on va parler de la révolution food.
Mais oui.
Avec Lila Megraoua et nos invités, la guerre des services de livraison de repas à domicile
est enclenchée.
Et déclaré. Avec une actu récente, c'est Uber qui se lance sur ce marché. Hein. Si vous êtes dans la région parisienne, peut-être, et si vous êtes abonné Uber, peut-être avez-vous reçu, tout comme moi, une petite publicité qui vous dit, ben voilà, maintenant Uber vous livre vos repas à la maison. À maison ou au travail d'ailleurs.
Alors le secteur de la food tech est en plein boom. C'est pas nos invités qui vont nous contredire là-dessus. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes. Alors à la fois le numéro 1 de la restauration livrée en France, Allo Resto, Gilles Raison. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Allo Resto et un autre spécialiste en studio, Kevin Campus. Bonjour.
Bonjour.
Alors Kevin, vous êtes associé Food Tech chez 33 Entrepreneurs. Alors dites-nous messieurs, en quoi le digital est en train de révolutionner cet univers traditionnel de l'alimentaire. Kevin ?
Alors je pourrais dire que ce qui explique cette révolution qu'on a vu apparaître il y a presque 5 ou 6 ans, mais qui est vraiment émerge de manière très sensible aujourd'hui, y compris en France, c'est qu'il y a une maturité des technologies qui fait que de nombreux projets peuvent s'emparer de cette maturité pour créer des modèles qui jusqu'alors n'existaient pas.
Mmh. Notamment le mobile, la géolocalisation, des choses comme ça.
Alors dans tous les domaines, big data, GPS, intelligence artificielle, robotique. On était la semaine dernière à San Francisco pour une conférence où on a fait venir 80 startups. On a vu dans les 80 startups les plus innovantes au monde dans le domaine de la food, des projets très early stage, mais absolument tous les domaines sont désormais concernés. Toute la chaîne de valeur d'alimentation est en train d'être attaquée par des nouveaux entrants, des nouveaux venus qui savent se saisir des technologies et les arranger dans des modèles et dans des experts d'usage qui sont totalement nouvelles et c'est plus que de la révolution.
Qu'est-ce que vous avez vu là-bas qui vous a un exemple incroyable, en tout cas qui vous a surpris? Vous pourriez nous raconter.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, on voit des modèles qui finalement facilitent énormément la vie. On a vu un projet, par exemple, deux projets qui ont gagné et qui vont venir chez nous au mois de mars l'année prochaine en accélération. Donc des Américains qui viennent en France pour s'accélérer. C'est le modèle de 33 entrepreneurs.
Ça n'arrive pas tous les jours, ça.
Exactement. Ils viennent apprendre. On a vu un modèle extraordinaire qui s'appelle Feeding Forward. C'est une plateforme communautaire et digitale qui est conçu pour optimiser la gestion des surplus alimentaires dans les entreprises. Donc les entreprises s'abonnent, elles déclarent qu'elles vont avoir des restes et la plateforme permet de mobiliser des gens qui vont venir les chercher et les redistribuer. Rien que pendant la conférence qui a duré 2 jours, ils ont nourri 600 personnes. Sur 6 mois d'existence à San Francisco, ils se sont lancés il y a à peine 6 mois, ils ont nourri 600 000 personnes. Et le modèle est tout simple. Les entreprises qui déclarent et qui donnent des surplus bénéficient en retour d'exonérations fiscales.
Tout le monde est gagnant en fait.
Tout le monde est gagnant.
D'accord. Donc c'est peut-être ça qui va faire que ça va être un succès.
Bon, et puis en même temps, on a vu, on a vu des capteurs extrêmement sophistiqués, on a vu des barres protéines à ne plus avoir faim, on a vu le Watson for Food d'IBM qui nous a fait une démonstration. C'est intéressant de voir d'ailleurs que c'est un Français qui pilote le projet. Et d'ailleurs, on a vu aussi beaucoup de start-up américaines de la food qui, dans lesquelles des Français sont à la manœuvre. Il y a entre autres une start-up extraordinaire que vous irez voir qui s'appelle Handpick, qui a été fondée par 3 Français à San Francisco et qui est en train de faire un absolu carton.
Alors si on retourne en France, on a l'acteur Allo Resto, numéro 1 en matière de restauration livrée. Gilles Raison, pourtant Allo Resto c'était pas gagné au départ.
Non, Allo Resto, c'est une longue aventure. Hein. C'est une entreprise qui a été créée en 1998, donc a été très en avance sur le time to market de la restauration livrée, qui a vécu quelques soubresauts dans son histoire, et puis qui, depuis quelques années, est sur une croissance très importante de plus de 50% par an, qui a été rachetée par le leader mondial de la restauration livrée, le groupe Just Eat, qui est l'opérateur qui mondialement opère le plus de commandes en restauration livrée. mesurer, 61,2 millions de commandes en 2014. Allo Resto est la marque française du groupe Just Eat. Et aujourd'hui, à travers justement les technologies et notamment le smartphone et la géolocalisation, le suivi de commandes en ligne qu'on vient de lancer au mois de septembre en France sous la marque Allo Resto, désormais, on voit une accélération de la croissance et un nombre de clients qui arrivent à la restauration livrée qui devient de plus en plus important. Sur les 12 derniers mois, Allo Resto a livré plus de 500 000 clients différents. Donc on est clairement désormais dans un marché de masse avec à la fois des early adopters qui étaient davantage des célibataires gamers et désormais on touche à peu près tout le monde et notamment les familles qui en plus ont des paniers moyens un petit peu plus élevés et qui sont intéressés par différents types de spécialités. Donc on sort totalement de la pizza et du sushi pour aller aujourd'hui vers 30 spécialités différentes.
Alors les clients, vous le dites, sont convaincus, mais comment on s'adresse finalement à des restaurateurs qui sont pas nécessairement digitalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est combien de restaurants qui vous suivent ?
Alors, aujourd'hui, sur Allo Resto, c'est 3500 restaurants. Mmh. Ce sera 4000 avant la fin de l'année. Il faut savoir qu'on a mis plus de 10 ans à signer 500 restaurants et on a mis moins de 6 mois à en signer le même nombre. Donc, ce qui prouve l'accélération extrêmement importante. Mmh. On pense qu'il y a un potentiel en France de plus de 7 à 8 000 restaurants qui vont faire de la livraison dans les deux prochaines années. Et l'apport de la technologie et notamment des suivis de commandes et du coup des précisions des zones de livraison, puisque finalement ce qui est compliqué pour un restaurant, c'est de définir exactement l'endroit où il peut livrer. Et là, on a quelque chose de nouveau qui va encore une fois révolutionner le marché.
Gilles Raison, petite question. Alors moi, je suis un adepte de la livraison de nourriture à domicile comme bon parisien qui se respecte. Je me pose souvent la question, ça sert à quoi de passer par vous ? Parce que finalement, moi, je peux aller, bon, j'ai envie d'un Indien, j'appelle l'Indien du coin, il me livre, et puis c'est réglé. Je commande ma pizza, je vais pas citer toutes les enseignes qui existent, ou mes sushis. Ça sert à quoi de passer chez vous, en fait ?
Bien, ça va vous prendre à peu près 15 secondes de passer par Allo Resto. Ça va vous prendre en moyenne 2 à 3 minutes de passer votre commande au téléphone en passant chez un en direct avec un restaurant qui parfois parce que c'est pas son cœur de métier ne saura pas traiter votre problème en tant que client, notamment si vous avez un souci avec la nourriture, si vous avez un souci avec le livreur, et ça Allo Resto va servir d'intermédiaire entre un restaurant et un client pour finalement que la relation soit la plus simple possible. Et aujourd'hui, le développement de l'application mobile, donc iPhone, Android, raccourcit encore le temps de passation de commande et le fait de plus avoir besoin de parler au téléphone pour se faire livrer une salade thaï ou un poulet punjab.
Et ça me coûtera le même prix que si je passe
exactement
en direct vers
absolument
le restaurant.
Absolument. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Pas de prix différent par rapport à ce que vous allez pouvoir trouver dans le restaurant. Et donc, on est extrêmement attentif à cette promesse qui fait partie de notre cœur de métier.
François mentionnait le lancement d'Uber Eats. Comment vous répondez à cette concurrence-là ?
Eh bien, écoutez, moi, je suis très content.
Ah, parce qu'on aurait pu croire que comme les taxis, vous auriez pu descendre dans la rue, tout ça.
Je ne vais pas aller
rue. Sushis,
je ne vais pas aller rue de Cambrai avec mes petites pancartes Allo Resto. Non, je suis content parce que la mission d'Allo Resto, c'est de faire aimer la restauration livrée aux Français. À partir du moment où j'ai un certain nombre de concurrents qui m'aident dans cette mission, j'ai plus de chances d'augmenter la taille de marché et donc de réussir mon business. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tous mes nouveaux concurrents, donc Uber notamment, sont finalement sur une niche du marché. C'est-à-dire qu'ils sont, en l'occurrence pour Uber, sur le midi, sur un nombre de plats limité, sur un nombre de restaurants limité. L'offre d'Allo Resto, aujourd'hui, elle est nationale. 40 villes françaises, 3500 restaurants, bientôt 4000. Et donc, finalement, on touche une cible beaucoup, beaucoup plus importante. Et à chaque fois que les médias parlent de restauration livrée à travers un de mes concurrents, finalement, je gagne des téléchargements de l'application Allo Resto et je gagne des clients. Donc moi, j'en suis très content.
Mais malgré tout, Uber est un concurrent et on peut imaginer que là, bon, voilà, ils vont passer la vitesse supérieure, peut-être proposer plus de plats, peut-être proposer plus d'arrondissements, plus de villes. Ça risque de devenir un vrai concurrent à terme, non ?
Oui, bien sûr. Mais le marché
est assez grand pour se partager le gâteau. Le marché
est tellement important que ça ne pose objectivement aucun problème pour Alloresto d'avoir un concurrent comme Uber, comme nous l'avons par ailleurs déjà avec le groupe Just Eat dans d'autres villes dans le monde, hein, comme à Toronto ou à Barcelone.
Oui, puisque Uber a déjà lancé son service.
Et en l'occurrence, ça n'a jamais baissé la croissance de Just Eat Alloresto dans aucun pays.
Kevin Campos, est-ce que vous partagez cet optimisme ? Est-ce que quelque part c'est une bonne nouvelle pour la foodtech française ? Ce qui va m'amener à une autre question. Est-ce qu'en France, on est en avance sur la foodtech ? Vous nous avez parlé de San Francisco.
Alors, toute concurrence nouvelle crée effectivement un marché. Il y a des modèles qu'on voit émerger. Alors, Resto, on va en parler d'autant plus aujourd'hui, alors que ça fait exactement 12 ans que vous existez. Et parce que ça fait 18 ans que vous êtes là, vous allez encore pouvoir surpasser les autres. En tout cas, tous les marchés sont pareils, hein. Il faut apprendre à se renouveler. Et c'est le plus il y en a, mieux c'est. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, alors, la food tech est effectivement, un domaine dans lequel la France a de quoi exceller, mais effectivement, on a des concurrents qui sont pas très loin de chez nous en Europe et qui sont extrêmement puissants, qui ont pris aujourd'hui toute une partie du marché, essentiellement sur la livraison. Il faut savoir que dans les top 5 licornes européennes aujourd'hui, vous avez 3 entreprises qui font de la livraison à domicile, 2 allemandes et Just Eat en 5e. Et ensuite, la France a des valeurs extraordinaires. Nous, on était aux États-Unis. Je vous ai parlé de français dans des startups américaines, mais surtout, en fait, nous, quand on vient aux États-Unis, 33 entrepreneurs aux États-Unis, ça veut pas dire 33 Bordeaux, ça veut dire 33 la France, un savoir-faire et une culture qui fait envie, et les Américains ensuite viennent chez nous. On a aujourd'hui 7 startups chez nous en accélération, ce sont 7 startups étrangères qui viennent apprendre la complexité de l'alimentaire telle que nous on la maîtrise, qui viennent apprendre l'Europe en France.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces précisions. Et on revient dans un instant pour la suite de l'atelier sur BFM Business. Dans une minute, ce sera notre World Tour et puis juste après notre French Tech Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, notre French Tech Tour. Mais auparavant, notre World Tour. Et c'est avec vous, Aurore Géraud.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes avec Aline Maillard. Aline, bonjour.
Bonjour, Aura.
Qui est donc fondatrice de l'accélérateur marocain Blue House. Moi, je voulais parler un petit peu, avant de commencer, du French Tech Ticket, qui a été annoncé par François Hollande en octobre 2014 et qui a été lancé en mai dernier, dont le but est d'attirer les startups étrangères. Là, on va parler un petit peu d'entrepreneurs maghrébins qui n'ont pas attendu, du coup, que ce French Tech Ticket apparaisse. Aline, vous avez fait un article récemment pour le site Wanda où vous êtes vous officiez en tant que responsable éditorial sur pourquoi ces entrepreneurs maghrébins se sont lancés en France. Alors qu'est-ce qui les pousse à se tourner vers la France?
Déjà, c'est vrai que les pays arabes, les pays africains, etc., la tentation est forte d'aller dans des pays qui sont plus développés parce qu'on y trouve de l'argent, des fonds plus facilement, parce qu'on y trouve de l'expertise, des gens, des accélérateurs, des incubateurs. On est à côté des grands partenaires, par exemple Google, Android, toutes les personnes qui vont être des clients, qui vont pouvoir vous aider, sont basées là-bas, donc c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec eux. Donc ça fait plein, et puis une main d'œuvre qui est qualifiée, etc. Ça, c'est plein de raisons qui font que les entrepreneurs d'économie moins matures sont attirés vers des écosystèmes comme Londres, Paris, Berlin, etc. Et puis, dans le cas très particulier des Maghrébins, il y a aussi le fait de la proximité culturelle, puisque c'est effectivement... il y a beaucoup de Maghrébins qui ont les moyens, qui vont étudier en France, qui parlent français couramment, qui ont une culture française. Et donc, pour eux, ça vient un peu naturellement. Ils sont en train de faire leurs études, ils sont à HEC entrepreneurs, ils vont rencontrer des... leur école de commerce, leur école d'ingénieur, et c'est comme ça que naissent les idées et qui décident de rester. Donc il y a un peu le double côté des gens qui veulent venir spécifiquement parce qu'ils vont trouver des conditions qu'ils n'ont pas chez eux. Mm-hmm. Et puis les personnes pour qui ça arrive parce qu'ils sont là. Et ils sont là, ils font leurs études en France, ils travaillent en France. Ils ont l'idée, ils trouvent la société et ils se lancent là-bas. Et ça, ça permet effectivement de créer des emplois et de la valeur en France.
Et la France, c'est un marché test pour ce genre d'entrepreneurs ?
Dans quel sens ?
C'est un marché test parce que plus de personnes, plus de technologies peut-être ?
Alors, en règle générale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu en fait, d'entrepreneurs qui veulent... qui se lancent à l'étranger pour revenir chez eux. Mmh. Donc la grande majorité des entrepreneurs maghrébins qui sont basés en France, avec qui je suis rentrée en contact, pour eux, c'est une idée qu'ils vont développer pour et sur le marché français, d'accord, avec peut-être l'ambition après d'aller développer à l'international, mais plutôt en Amérique ou en Europe. Il y a très peu de personnes qui se disent « je vais lancer en France et puis après je vais rentrer au Maghreb, par exemple ».
D'accord. Et alors, ils partent en France, c'est aussi pas simplement pour la qualité de la France, mais c'est aussi peut-être pour échapper à des difficultés peut-être légales ou de levée de fonds. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, c'est sûr que au Maroc, en Tunisie, les conditions, le cadre juridique et les fonds qui sont disponibles sont un petit peu plus compliqués à gérer qu'en France. Mmh. Après, au contraire, qui, eux, ont choisi de rentrer de France pour montrer leur entreprise au Maghreb, sont tous d'accord sur le fait que rien n'est impossible. Être entrepreneur, c'est aimer prendre des risques, c'est aimer les challenges. Et donc, il n'y a rien vraiment qui va stopper un entrepreneur. Après, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'un peu plus de débrouillardise pour lever des fonds au Maroc ou pour trouver la bonne structure juridique en Tunisie. Il va falloir peut-être aller voir des investisseurs étrangers ou réussir à créer une société en France et en Tunisie pour pouvoir gérer certains contrats, etc. Mais rien n'est impossible. En tout cas, il y a plein d'entrepreneurs qui au contraire se disent contrairement à mes copains, moi je vais rentrer dans mon pays et je vais développer quelque chose là-bas.
Merci beaucoup Aline. Aline Maillard,
merci, Aline Maillard,
responsable éditoriale de WAMDA France et fondatrice de l'accélérateur marocain Blue House. Et Aurore, on poursuit avec vous, avec maintenant votre French Tech Tour. Et on va parler de Paris. Paris qui s'érige comme un exemple pour la French Tech, Aurore.
À l'occasion de l'annonce des lauréats des Grands Prix de l'innovation de la ville de Paris qui a eu lieu cette semaine, notre French Tech Tour est consacré donc à la ville de Paris. Et avec nous pour en parler, Jean-Louis Missica, qui est donc adjoint en charge du développement économique et de l'attractivité pour la ville de Paris.
Bonjour.
Pour une ville qui est donc une capitale d'une France numérique, est-ce qu'il n'y a pas une forme de pression pour être un exemple ?
Non, pas du tout, parce que, vous savez, nous n'avons pas attendu le label French Tech pour être innovant et pour mettre en place un écosystème de l'innovation à Paris. Paris, une ville où on peut expérimenter les nouvelles technologies et les produits et services innovants dans l'espace public. Et puis, nous avons les Grands Prix d'innovation de la ville de Paris, qui sont une manifestation qui a maintenant pas mal d'années, qui s'est amplifiée et développée au fil du temps et qui est aujourd'hui un des rendez-vous les plus prisés en matière de nouvelles technologies et d'innovation.
Le French Tech Ticket, est-ce que ça prend l'opposé en fait du Pass French Tech qui lui a le but d'accompagner vers l'internationalisation? Vous essayez d'inclure plutôt, est-ce que c'est complémentaire?
Oui, bien sûr, c'est complémentaire. Vous savez, l'économie de l'innovation a ceci de particulier, que c'est un marché qui est directement mondial. C'est pas du tout un marché sur lequel on peut se déployer à l'échelle locale ou nationale. Et puis ensuite, on part à la conquête des marchés étrangers, notamment dans le numérique. C'est particulièrement vrai dans le numérique, mais c'est vrai aussi dans la biotech. Le concept que vous inventez, si vous n'êtes pas capable de le déployer le plus rapidement possible à l'international, eh bien, vous aurez des concurrents qui seront plus rapides que vous. C'est d'ailleurs un des drames des startups européennes par rapport aux startups américaines. Les startups américaines sont beaucoup plus rapidement que les startups européennes dans le déploiement mondial. Et de ce point de vue-là, l'outil French Tech en direction de l'accompagnement à l'international vise à donner aux entreprises innovantes françaises les moyens d'un déploiement plus rapide. C'est absolument indispensable. Le French Tech Ticket, c'est l'inverse. C'est le fait que le milieu de l'innovation, l'écosystème de l'innovation est à la fois un écosystème local, très souvent métropolitain, mais également un écosystème mondial, c'est-à-dire que les start-up dialoguent entre elles, les idées fusent de la rencontre un peu par hasard, et donc le fait que dans la diversité que vous devez mettre en œuvre dans un écosystème, vous rajoutiez cette diversité que représente l'origine nationale différentes et les langues différentes des différents porteurs de projets, ça rajoute en quelque sorte une dimension un peu cosmopolite à la création et à l'inventivité, à la créativité. Et c'est exactement ce que nous voulons faire dans les incubateurs parisiens. Les incubateurs parisiens doivent être des lieux où se rencontrent ceux qui innovent, quelle que soit leur nationalité ou leur langue.
Il y a le cargo qui s'est développé, bientôt la Alfraissiné. Est-ce que ça fait pas beaucoup d'incubateurs?
Non, pour le moment, les places d'innovation sont à la hauteur de la demande de la part des créateurs d'entreprises. Et je crois que le processus ne fera que s'accélérer pour une raison très simple. C'est d'une part parce que les jeunes Français et les jeunes Françaises sont de plus en plus nombreux à vouloir créer leur entreprise. Et donc là, on a un mouvement de bascule qui est absolument fondamental et qu'on attendait depuis longtemps entre, je dirais, les aspirations à être fonctionnaire ou à être dans la grande entreprise et les aspirations à créer soi-même son entreprise. Et de ce point de vue-là, ces aspirations-là commencent de plus en plus à être importantes. Et puis, l'autre aspect qui me paraît essentiel, c'est que la machine à créer des emplois, elle est du côté de la nouvelle économie. La désindustrialisation est une réalité. La France le vit douloureusement depuis des années. Et donc, la création d'emplois, elle se fait dans ces nouveaux secteurs. Donc, si nous voulons que une ville comme Paris soit toujours une ville prospère, si nous voulons qu'elle soit toujours du côté de la création nette d'emplois, il faut que nous soyons capables de mettre en route des dispositifs qui permettent la création d'emplois dans ces secteurs de la nouvelle économie, alors même qu'il y a encore de la destruction d'emplois dans les industries classiques et voire même dans les services traditionnels.
On parle de Brest comme étant spécialisé dans le maritime, Aix-Marseille dans la Smart City, alors Paris spécialisé dans...
Non, Paris est une ville monde, Paris est une ville globale et donc elle est spécialisée dans tout, si j'ose dire. Si vous prenez les 40 et quelques incubateurs qu'il y a à Paris, vous verrez que nous couvrons quasiment tous les champs de l'économie d'innovation. Il faut savoir aussi que l'économie d'innovation n'est pas sectorielle. L'innovation, elle peut être présente dans le tourisme. On a un incubateur sur le tourisme. Elle peut être présente dans le sport. On a un incubateur dans le sport. Elle peut être présente dans la logistique. Elle peut être présente dans l'immobilier. Donc, il faut pas croire, quand on parle de numérique, on réduit un peu le champ de l'innovation. Il n'y a pas que le web et les biotech. En réalité, la possibilité d'innover, elle concerne l'ensemble des secteurs des activités humaines. Ça concerne l'éducation, ça concerne la santé, ça concerne la retraite. Et donc, ce que Paris peut et doit être, c'est une ville qui fonctionne comme un hub mondial de l'économie de l'innovation. Et être un hub mondial de l'économie d'innovation, ça veut dire être présent dans tous les champs, dans tous les secteurs, dans tous les segments de l'économie d'innovation.
Merci Jean-Louis Messica.
Aurore Géraud, merci. On revient dans un instant. Et direction la rédaction de ZeroNet.com dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Et dans un instant sur BFM Business, dans cet atelier numérique, ce sera le crash test d'Antoine. Mais auparavant, direction la rédaction de 01net avec Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef du Pôle Actu. Salut Eric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour justement nous intéresser aux gros titres d'actualité qu'on a pu lire cette semaine sur 01net.com. Et à commencer par ce scandale iPhone, on peut le dire. Hein. Décidément, ouais. Après l'antenne à Gate, après... qu'est-ce qu'il y avait eu comme gate?
Il y a eu le Ben Gate l'année dernière hein, sur l'iPhone 6.
Voilà, c'est vrai que depuis quelques années, à chaque fois que sort un nouvel iPhone, il y a un petit scandale.
Ouais.
Et cette année ne déroge pas à la règle. Le scandale de la puce cachée.
Exactement. Oui, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un iPhone 6S, d'ailleurs c'est le cas pour tous les iPhones, hein, c'est pas que le 6S, vous n'avez pas forcément la même puce à l'intérieur. Il y a bien un modèle de puce qui s'appelle l'Apple A9, mais ce n'est pas forcément le même même constructeur qui le fabrique. Il y a deux constructeurs. Il y a Samsung d'un côté, d'ailleurs qui est au passage un grand ennemi d'Apple, hein, mais qui est quand même partenaire. Parce que c'est, ils ont cette capacité à produire des puces. Hein. On sait que Apple c'est une boîte fabless qui n'a pas d'usine. Donc pour produire ses processeurs, il faut qu'ils passent par des gens comme Samsung. Donc il y a Samsung d'un côté et TSMC qui est un autre gros fabricant de puces. Et en gros, en fonction, au petit bonheur la chance, vous pouvez avoir soit un iPhone dont le processeur a été fabriqué, gravé par TSMC ou par Samsung.
Mais qui répond au même cahier des charges, processeur.
Voilà, c'est le même processeur.
Qui va faire les mêmes tâches.
Exactement. Sauf qu'il n'a pas pour le coup, la même technologie de gravure. Dans le cas de Samsung, il est un petit peu plus petit parce qu'il est un peu plus fin. Et voilà. Et Apple, pour ses besoins de production énormes, fait appel à deux entreprises différentes.
Et ils sont obligés parce que comme ils produisent des dizaines de millions d'iPhone, ils sont obligés en fait d'avoir plusieurs fournisseurs.
Exactement.
On peut le comprendre.
Exactement. Mais alors, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est parti d'une discussion sur Internet. Un internaute qui avait les deux versions de l'iPhone 6S s'est rendu compte en lui faisant passer des benches que il avait des résultats différents de benches. D'autonomie sur ces deux téléphones. Donc, ZeroNet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu voir si c'était vrai. Tout simplement, on a fait nos propres tests, puisqu'on teste l'autonomie de dizaines, voire de centaines de smartphones par an.
Avec, évidemment, des procédures de test assez évoluées.
Voilà,
hein, vous avez un labo pour ça.
Exactement, on a un laboratoire qui teste avec différents tests plusieurs fois toutes ces autonomies. En communication, une autonomie polyvalente, une autonomie vidéo. Donc, on teste un petit peu tout pour savoir si le téléphone tient ou tient pas. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait, effectivement, une différence entre l'iPhone 6 avec une puce Samsung, et l'iPhone 6S, pardon, avec une puce Samsung, et l'iPhone 6S avec une puce TSMC. Il y a une différence d'autonomie qui... Ouais.
Notez que, évidemment, ce problème est sur les iPhone 6S, mais aussi les iPhone 6S Plus.
Oui, tout à fait. Nous, on a testé plutôt sur l'iPhone 6S, mais effectivement, c'est la même chose sur l'iPhone 6S Plus. Et effectivement, on a remarqué qu'il y avait une différence non négligeable d'autonomie. Bon, alors, Apple a communiqué très vite sur ce sujet. Quand le sujet a commencé à monter sur la toile, etc., Apple a communiqué très vite en disant, oui, il y a une petite différence, ça peut arriver, parce que c'est comme ça, sur les smartphones, vous pouvez avoir entre deux modèles des différences de 2 à 3%. Or, ce que l'on constate, nous, c'est qu'il y a une différence sur les modèles qu'on a testés, un peu plus importante que de 2 à 3%, puisqu'on constate, en gros, une autonomie supérieure pour le modèle TSMC de 1 heure sur la plupart de nos tests. C'est-à-dire, sur les 4 tests qu'on fait, en gros, sur 3 de ces tests, c'est-à-dire sur l'autonomie en surf web, l'autonomie polyvalente, où le téléphone fait un petit peu tout ce qu'on fait au cours de la journée, et sur l'autonomie en vidéo.
Lecture vidéo. Vous mettez un film et voilà.
Exactement, on regarde jusqu'à combien de temps.
Combien de temps dure la batterie avec un film.
Exactement. Et bien sur ces trois tests-là, le TSMC est plus autonome que le Samsung. D'une heure environ à chaque fois, on retrouve ce pattern de 1 heure.
Donc là où ça devient intéressant, c'est que dans ce cas-là, c'est plus 2 à 3% comme le dit Apple.
Non, c'est un peu
plus. Parce que 1 heure de différence d'autonomie, c'est quand même beaucoup.
C'est quand même beaucoup, sachant que là, on parle de, par exemple, sur l'autonomie web, on arrive sur un chiffre de 11h30 pour le TSMC et de 10h30 pour le Samsung. Donc, il est vrai que sur une journée, vous allez peut-être pas voir forcément une grosse différence, mais si vous utilisez énormément votre portable, par exemple, pour jouer, ou si vous êtes un gros joueur, vous pourriez voir une différence notable entre ces deux appareils.
En gros, plus on a une utilisation intensive de son iPhone, plus on risque de se rendre compte qu'il y a une différence.
Exactement.
En revanche, si on a une utilisation
normale,
très light, normale, à passer des
vous ne verrez sans doute pas de différence, sinon peut-être effectivement 3-4% à la fin de la journée. Mais il y a quand même une différence entre ces deux puces et c'est intéressant de le dire. Et alors vous pouvez vous-même, si vous voulez, avec une petite application qu'on trouve sur l'App Store, savoir quelle est la puce que vous avez intégrée. Après, il faut pas non plus s'inquiéter, il faut pas dramatiser, même si il y a vraiment un problème.
Oui.
On peut quand même tout à fait utiliser son iPhone,
l'appli et la
Samsung.
Par exemple, vous téléchargez sur l'App Store, hein, donc l'appli qui se nomme BMSSM. BMSSM.
Ouais. L'appli, une appli qui vous dit tout sur votre téléphone.
Exactement. Mais c'est important et courageux de la part de la rédaction de le dire parce que c'est vrai que Apple n'aime pas trop en général qu'on.
Non.
qu'on les chatouille.
Voilà. Hein. Bah surtout, c'est de savoir qu'on a deux, il y a quand même deux iPhones
deux
différents.
Deux iPhones différents. Avec deux puces différentes. On va parler de Facebook maintenant, qui fait évoluer son bouton j'aime, Eric.
Oui. Oui, alors ça, c'est, on l'attendait depuis longtemps. Alors tout le monde attendait un bouton je n'aime pas. Alors ça fait, c'est un des fantasmes des utilisateurs de Facebook. Il faudrait un bouton
drôle.
Je n'aime pas.
Ça que, pourrait être très drôle.
Oui. Effectivement, mais Facebook a toujours refusé de faire ce bouton je n'aime pas parce que sur Facebook, il faut être positif. Ce n'est pas un endroit où on dit je n'aime pas.
Et puis
pas
ça
ce que
desservirait Facebook, forcément.
Exactement. Donc Facebook a trouvé une autre solution. C'est ce qu'ils appellent les réactions. Et ça va arriver. Alors c'est déjà en test dans deux pays. Pas en France encore, malheureusement. Mais ça va arriver très bientôt, sans doute. Une évolution du bouton j'aime. C'est-à-dire que plutôt que dire j'aime à toutes les publications de vos contacts, vous allez pouvoir moduler cette réponse. Vous allez pouvoir, par exemple, dire ça me fait beaucoup rire, ou alors je suis triste, ou alors ça me met en colère. Ça, ce sera représenté par des emojis, des petits émoticônes, que c'est un petit peu fun, rigolo, et seront animés. Et donc, vous pourrez comme ça moduler en fait votre réaction à un post sans avoir pour autant à le commenter. Ce sera très pratique pour Facebook quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement postent des choses qui sont pas forcément très rigolotes. Hein. Des fois, Facebook, on annonce un décès, parfois on annonce une maladie, etc. Et on n'a pas envie de mettre j'aime, ou on n'a pas envie de mettre un commentaire, etc. Et pour montrer cette empathie, bah, Facebook fait évoluer ce bouton.
Ce
qui est pas bête, mais ça va arriver donc dans les mois qui viennent, a priori. Et puis c'est déjà donc lancé, notamment en Irlande et en Espagne.
Voilà, mais il n'y aura pas de bouton j'aime pas. Hein.
Non,
ça sera beaucoup plus nuancé.
Oui, ça sera beaucoup plus nuancé.
Facebook qui fait la part belle aussi à la vidéo, parce que bien évidemment, on le sait aujourd'hui, la vidéo est un média incontournable.
Exactement.
Et il faut que Facebook pousse la vidéo.
Pousse la vidéo. Alors ils avaient déjà commencé Facebook, ils mettent beaucoup en avant les vidéos qui sont publiées sur Facebook, et là ils vont un cran plus loin puisqu'ils vont faire une page spéciale dédiée à toutes les vidéos qui sont publiées sur Facebook. Autrement dit, une page qui ressemble un peu à YouTube. Facebook voudrait en fait percer sur la vidéo. Pourquoi ? Parce que la vidéo, il y a beaucoup d'engagement, ça fait que on va rester du coup plus longtemps sur Facebook, et aussi évidemment on peut placer de la publicité dedans, et ça intéresse énormément Facebook. Donc voilà, bientôt vous allez avoir un onglet qui va vous montrer en fait des différentes vidéos de vos contacts, voire des pages que vous suivez, où vous pourrez suivre du coup l'actualité en vidéo aussi sur Facebook.
L'actualité aussi justement. Hein,
exactement, puisque Facebook a toujours voulu être le journal de votre vie, ça ils ne se sont jamais cachés, et ils sont très très forts sur le secteur de l'actu, et là ils vont bientôt lancer une nouvelle application mobile qui va en fait exclusivement faite pour le mobile, qui va vous permettre de recevoir des notifications push, un peu comme ce qu'on vous recevait sur iPhone ou Android quand il y a une nouvelle importante, qui va les réunir et qui va permettre aux médias de passer par elle pour vous informer en temps réel quasiment, pour avoir des informations très fraîches. En gros, là ils veulent s'attaquer à Twitter plutôt.
Voilà. Facebook qui devient un web dans le web.
Exactement, de plus en plus,
c'est
on incroyable. S'en rend compte chaque jour davantage.
On va parler maintenant d'un sujet un peu touchy, les maisons disques n'aiment pas du tout. Il s'agit de Aorus.
Ouais, tout à fait.
Aorus qui est un système qui permet d'écouter de la musique gratuitement, mais illégal.
Oui, complètement. Voilà, c'est complètement illégal. Disons que ça a été présenté comme étant un système qui n'était pas illégal du tout. Mais ça va être compliqué de montrer que ce n'est pas illégal. C'est-à-dire que vous installez ce logiciel et puis ensuite vous téléchargez, ou plus exactement vous streamez toutes les musiques que vous souhaitez. Vous pouvez même importer vos playlists de Spotify, par exemple, si vous êtes abonné à Spotify, vous voulez plus payer Spotify, vous importez vos playlists sur ce logiciel et puis vous avez un Spotify pirate qui va chercher en fait sur différentes plateformes ces contenus.
Et notamment sur YouTube, je crois. Hein.
Notamment sur YouTube, mais aussi sur un site russe un petit peu bizarre qui a énormément de contenu piraté, et en théorie aussi, mais ça c'est un petit peu plus étrange, sur BitTorrent, puisque c'était ça l'idée, de profiter de toutes les musiques que l'on trouve sur BitTorrent pour pouvoir les proposer une interface à la Popcorn Time.
Ça sent un peu quand même l'illégalité tout ça.
Ça sent l'illégalité, mais alors le créateur de ce logiciel dit qu'il est absolument pas dans l'illégalité, puisque lui ne fait que fournir une plateforme technique, et puis ensuite les contenus, c'est pas lui qui les fournit. Mais le problème c'est que évidemment les maisons de disques ont rapidement, ça trois jours après la sortie, qui a eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine dernière, trois jours après la sortie de ce logiciel, les maisons de disques ont attaqué directement l'éditeur de ce logiciel, hein, qui est quand même constitué en une entreprise, et ils veulent le faire disparaître au plus vite. Donc on va voir ce qui va se passer, mais il y a déjà une jurisprudence qui est assez importante, notamment avec des logiciels comme LimeWire, hein, qui était un logiciel de téléchargement une certaine époque en peer-to-peer, et les gens de LimeWire disaient mais non, c'est pas nous qui mettons les contenus piratés, mais ils ont quand même eu à fermer, et ça risque d'être la même chose pour ce nouveau logiciel Horus, qui a déjà un assez grand succès.
Oui. Le seul problème, c'est que ce genre de système, ça ferme, mais quelqu'un le relance derrière, ça repart.
Exactement.
Un peu comme PopperTime.
C'est exactement la même chose, puisque Horus est open source, donc même s'il ferme, effectivement, quelqu'un peut reprendre son code, le relancer sous un autre nom ou même le même, et puis c'est reparti.
En quelques secondes aussi, Apple qui s'est fait taper sur les doigts cette semaine et qui va sortir le chèque, et un gros chèque.
Un très gros chèque de presque $1 milliard, hein, 860 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que ils auraient violé un brevet de l'université du Wisconsin. Ce brevet, alors on va pas l'expliquer ici parce que c'est très compliqué. C'est de la prédiction sur les puces A7, A8, les puces des smartphones, hein, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Ils auraient en fait récupérer une technologie en douce de l'université du Wisconsin qui n'a pas spécialement apprécié, et donc l'université du Wisconsin, c'est pas un patent troll pour une fois, lui réclame à Apple beaucoup d'argent, et c'est qu'un début, parce que Apple pourrait avoir à payer de nouveau de l'argent pour ses nouvelles puces, la 9 dont on parlait tout à l'heure notamment.
Petite semaine pour Apple, hein.
Oui, en effet.
Finalement, quand on y pense. Merci beaucoup Eric Le Bourlou. Eric Le Bourlou, donc rédacteur en chef du pôle actu de zeronet.com. Vous restez avec nous, suite et fin de l'atelier numérique dans un instant, avec entre autres le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Avant de terminer cet atelier avec le crash test d'Antoine Cyr dans quelques minutes, place à notre décryptage de cette semaine avec Louis Tressard, qui est le directeur général de l'atelier. Et avec Louis, nous allons parler aujourd'hui des enjeux de la livraison au contact du digital, Louis.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de livraison. Pour moi, la livraison est un phénomène, un vrai fondamental, et il cristallise énormément de sujets. Pourquoi ? Parce que c'est entre autres, comme dans toute problématique du digital, cette continuité entre le monde virtuel et le monde physique. Ce monde virtuel, entre autres dans l'e-commerce, qui permet donc, avec toutes les facilités que l'on a aujourd'hui, de commander des produits, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Et ce monde physique, c'est la représentation même du produit, c'est-à-dire comment je vais recevoir ce produit, à quel moment, et je dirais surtout au moment où je le souhaite. Si je vais plus loin, c'est aussi un KPI de la Smart City, ce KPI de bien-être. Pourquoi ? Parce que c'est la suppression d'obligations, des obligations de type s'organiser pour être présent chez soi, ou dans un lieu dans lequel on souhaite recevoir son colis. C'est une obligation de s'organiser pour aller chercher le colis, pour reprendre une phrase de Coluche quand il, avec une fameuse marque de lessive qui était de défaire les nœuds la semaine. Je dirais que bien souvent, nous sommes obligés de commander, quel que soit le jour de la semaine et de week-end, mais en tout cas de passer le samedi à aller chercher les produits dans les différents lieux, dans les différents tiers-lieux agréés par ces plateformes de services. Donc, hormis cette boutade, je dirais, on voit qu'il y a deux phénomènes qui convergent, que sont cette performance du e-commerce et la performance d'aujourd'hui et de demain de la Smart City, c'est-à-dire comment je gère le bien-être de l'individu, comment j'apporte du bien-être à l'individu. Pour ce faire, on arrive à un troisième point que je trouve assez fondamental, qui est la notion de tiers de confiance. Quels sont les acteurs qui, aujourd'hui et demain, rempliront ce deuxième KPI, qui est le tiers de confiance? Aujourd'hui, vous avez donc les retailers qui sont à même et qui se battent entre eux, je dirais, pour pouvoir gérer cette livraison avec différents concepts qui vont jusqu'à la gratuité en fonction d'un panier moyen, comme Amazon, bien évidemment. Mais on peut imaginer bon nombre d'acteurs qui sont dans cette notion de tiers de confiance, comme les banques, comme les acteurs du parking, et j'en passe. Je prendrai simplement certains points dans certains acteurs, les acteurs de l'immobilier particulièrement, qui ont un véritable potentiel et de véritables enjeux dans ce domaine de la livraison, puisque vous avez, et d'ailleurs ça fait l'actualité, avec la Poste qui utilise les boîtes aux lettres, qui vont utiliser les boîtes aux lettres des particuliers pour envoyer des colis. On peut imaginer les caissons d'appartements, hein, puisque vous aviez jusqu'à maintenant quand même ce service avec la concierge qui vous permettait de recevoir en cas d'absence ces fameux colis. Ces lieux existants, généralement, peuvent être équipés de caissons. On peut imaginer demain, au niveau des appartements, des sortes de caissons, de sas d'entrée, qui évitent de rentrer dans l'appartement, mais qui en même temps permettent de stocker du matériel, y compris des produits frais, à l'entrée de son appartement ou par groupe d'appartements. Il y a un autre phénomène qui, lui, sera apporté par le digital et commence déjà à l'être, avec ce phénomène du big data, qui permet, par rapport à un individu, de le connaître et de connaître ses usages, donc, et entre autres son parcours. On peut très bien imaginer demain qu'entre son parcours, son lieu de travail à son domicile, on puisse le suivre et livrer un produit au plus près de son domicile, à l'endroit qui lui apportera de la valeur, parce que, en fonction de la taille du produit, en fonction de son poids, etc., et en fonction de sa façon, ou plutôt de son mode de transport, qu'il soit à pied, à vélo, en deux roues, transport en commun, en voiture, ce sera le moyen qui sera pour lui le plus simple pour récupérer son colis. Mais de façon globale, on voit aujourd'hui dans l'actualité que bon nombre d'acteurs de type Uber, par exemple, ou même Amazon, fédèrent les particuliers pour livrer des colis. Donc on tourne autour de cette notion de tiers de confiance, comme hier et aujourd'hui, avec ses voisins, comment des plateformes de services permettent de fédérer un certain nombre d'acteurs sur lesquels vous repose cette confiance et chez lesquels vous accepterez d'aller de laisser vos clés ou d'aller chercher votre colis. Donc comme je l'ai dit, la livraison est un véritable KPI de la performance du e-commerce. C'est un enjeu vraiment fondamental. Quels seront les acteurs qui seront gardés ou gagner notre confiance dans ce monde virtuel?
Merci Louis Tressard et on enchaîne tout de suite avec le crash test d'Antoine. Et Antoine, le point de départ de ce crash test de cette semaine, nous allons parler des légendes bretonnes.
Oui, les légendes bretonnes parce que la Bretagne c'est un lieu de vacances, on pense un peu, même si c'est pas le moment encore, aux vacances. Et donc il y a plein de légendes bretonnes qui nous sont aujourd'hui très facilement accessibles grâce à Internet. Ça fait de bonnes histoires à raconter aux enfants, y compris lorsqu'il pleut en Bretagne.
Pendant les vacances.
Et certaines sont d'ailleurs très liées au lieu de vacances, comme par exemple la légende des larmes de Saint-Cieux. Alors Saint-Cieux, ça s'écrit S-I-E-U, donc pas comme les cieux, S-I-E-U. C'est le patron de Lancieux, L-A-N-C-I-E-U-X, qui est une petite station balnéaire entre Saint-Briac et Saint-Jacut-de-la-Mer. Et alors, ce Saint-Cieux, c'était justement un disciple de Saint-Brieuc, donc ne pas confondre avec Saint-Briac. Et donc un jour, le pauvre Saint-Brieuc est mort, et la mort de Saint-Brieuc a causé à ce brave Saint-Cieux, ne pas confondre, un tel chagrin que quand il est revenu dans son monastère, parce qu'il avait établi un monastère, il avait tellement de peine que ses larmes firent jaillir une fontaine du rocher qui était en face de lui. Donc en fait, c'était plus Saint-Cieux qui pleurait, c'était le rocher qui pleurait. Et cette source ne s'assèche jamais. C'est une source qui existe bien sûr à Saint-Cieux. Et donc la légende veut qu'elle vienne des larmes de Saint-Cieux. C'est quand même assez joli.
Il ne reste plus que les cieux pour pleurer, quoi.
Exactement.
En gros.
Alors, il y a une...
D'accord.
Non, mais c'est bien.
Non, écoutez.
Alors, il y a...
Deuxième légende ?
Alors, donc ça, c'est ça, ça se trouve... Alors, ça se trouve, j'ai trouvé ça sur un site qui est le site des Bretons de Clamart.
Ah,
allez savoir pourquoi.
Bah oui, attendez,
voilà, mais vous faites
Breton
Clamart, vous allez trouver ça notamment et d'autres choses.
Voilà, Clamart qui est dans la région parisienne. Hein.
Exactement. Alors, il y a un site qui est assez étonnant, qui s'appelle légendebretonne.fr.
Oui.
Et donc sur ce site légendebretonne.fr se trouve ce site est entièrement destiné à la publication en ligne des légendes et contes bretons collectés par François-Marie Luzel. Alors François-Marie Luzel, c'était un folkloriste, donc un folkloriste, c'est un spécialiste du folklore, qui est mort en 1895. Donc,
d'accord,
il y a quand même,
oui,
ça fait un bail. et il est resté célèbre pour avoir parcouru la Bretagne et surtout la région du Trégor en quête de personnes susceptibles de lui conter les récits et les histoires traditionnelles du folklore breton. Et donc, grâce à son à ses recherches, il a pu amasser une très grande quantité de textes qui ont été publiés, et donc parmi ceux-ci figurent 3 volumes de contes populaires de Basse-Bretagne qui ont été publiés en 1887. Et donc, cette littérature populaire, qui est donc vraiment une littérature que se transmettaient des gens simples, qui menaient une vie difficile, et qui en fait se racontaient ces histoires, parce que imaginez, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas, ces gens ne savaient pas lire, souvent. Et donc, ils se racontaient des histoires, et
qu'on leur avait eux-mêmes racontées.
Et le fait de raconter des histoires était la presque totalité du divertissement dont il disposait. Et donc,
j'imagine que ceux qui avaient du talent pour raconter ces histoires étaient des stars.
Absolument. Et alors, il y a de très jolis les noms de ces nouvelles, de ces histoires, sont très jolis. Il y a la fille qui se maria à un mort, la femme du trépas, le château de cristal, la princesse de Troncolène, les trois poils de la barbe d'or du diable, les 14 juments et le cheval du monde, la princesse de l'étoile brillante, le magicien Ferragio, la truie sauvage, l'homme poulain, la femme du loup gris, l'homme marmite, l'homme crapaud, le roi d'Almar et le corps sans âme. C'est quand même très joli. Et alors, voilà.
Il y a quelques titres inquiétants, quand même.
Inquiétants.
Aussi.
Bah oui, c'était des légendes qui devaient quand même se murmurer.
Faire un peu frissonner
le soir à la veillée. C'est absolument extraordinaire. Et alors, voilà ce que disait, Luzel lui-même. Il disait, tous mes contes ont d'abord été recueillis dans la langue où ils m'ont été contés, c'est-à-dire en breton. Je les reproduisais sous la dictée des conteurs, puis je les repassais plus tard à l'encre sur la mine de plomb du crayon. Enfin, je les mettais au net, mais c'était pas le internet, et je les traduisais en français, en comblant les petites lacunes de forme et les abréviations inévitables quand on écrit un récit ou un discours parlé. J'ai conservé tous mes cahiers qui font foi de la fidélité que je me suis efforcé d'apporter dans la reproduction de ce que j'entendais, sans rien retrancher et surtout sans rien ajouter aux versions de mes conteurs. Donc c'est véritablement en quelque sorte, c'est intéressant parce que Luzel a fait un travail qui est un peu un travail collaboratif, c'est un peu une sorte de Wikipédia avant l'heure, et donc aujourd'hui, les travaux de Luzel existent grâce au site légendebretonne.fr. Je trouve que c'est une très belle initiative qu'il faut saluer. Alors sinon, bien sûr, il y a beaucoup de comptes, il y a beaucoup de sites qui donnent des légendes bretonnes. On en trouve sur des sites de tourisme, tourismebretagne.com, on le trouve sur des sites de collectivités locales, j'en ai vu notamment sur le site auray.org, le site bretagne.com aussi, et bien sûr, donc on trouve tous ces personnages des légendes bretonnes, comme par exemple les Korrigans. Donc le Korrigan est issu du folklore breton, c'est une sorte de gnome ou de lutin farfelu. Le Korrigan signifie petit nain, ça vient du breton cor qui veut dire nain, suivi du diminutif ig et du suffixe an, avec le pluriel breton ed, Korriganed. Et donc voilà, ce sont les petits lutins farfelus qu'on appelle aussi les poulpiquettes, les commandants ou les oségans. Je ne sais pas si j'ai l'accent. Et donc ce sont les gardiens des trésors des collines. Ils sont extrêmement riches, mais aussi incroyablement avares. Ils ont une reine, voilà. Donc, alors il y a aussi le Lankou. Je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est un peu le maître de la terreur. Il fait peur. Il circule la nuit debout dans un chariot dont les roues grincent. Enfin bon, voilà. Et puis alors il y a des personnages assez étonnants qu'on appelle notamment les canes. Et pardonnez-moi encore pour mon accent breton. Les Canere Z Nose, les lavandières de la nuit. Ce sont des femmes grandes et maigres qui viennent dans les lavoirs de ce monde faire les lessives des suaires. Et donc, elles lavent en quelque sorte les âmes qui dans l'au-delà attendent leur délivrance. Et donc, elles doivent travailler en rémission de leurs péchés. Gare aux malheureux qui les rencontrent, il leur est réservé un sort qui peut être quelquefois cruel. Voilà.
Ouais, bien dites-moi. Voilà. Ah oui, c'est un peu inquiétant parfois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est les gens bretonnes. Merci Antoine pour ce crash test. L'atelier numérique est terminé. J'espère que vous n'allez pas faire de cauchemar à cause d'Antoine. Hein. Si jamais vous nous envoyez un mail, on forwardera directement Antoine. Cet atelier est terminé. On sera là bien sûr samedi prochain. 16h-18h. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et à samedi.